Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et voici sans plus attendre le programme de notre émission. La Tunisie laisse la porte ouverte au FMI, mais sous ses propres conditions. Le ministre des Affaires étrangères tunisien a clarifié la situation à notre micro. Berlin a reconnu avoir envoyé du matériel de mauvaise qualité à l'Ukraine. L'ambassadeur français au Niger qui a quitté Niamey. Les sélections kényanes et camerounaises de football affronteront prochainement la Russie en match amical. Des internautes marocains réclament à travers un hashtag la mise en place de visas pour les ressortissants français. Un journaliste marocain décryptera les raisons de cette initiative. Le Canada est dans la tourmente après avoir honoré en grande pompe un vétéran nazi ukrainien au Parlement. Un professeur en relations internationales reviendra à notre micro sur ce scandale. Un grand nombre d'entrepreneurs en Afrique n'ont jamais entendu parler de la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine. Un macroéconomiste burkinabé et le fondateur du Conseil uni des affaires d'Afrique du Sud discuteront des raisons de ce manque de sensibilisation et présenteront les avantages de ce projet. La journée internationale du tourisme, c'est le 27 septembre. Un responsable du département de tourisme d'une province sud-africaine fera le point sur la situation dans ce secteur sur le continent africain. L'Allemagne a reconnu avoir livré à l'Ukraine du matériel militaire non opérationnel. Lors d'une interview à la chaîne de télévision américaine CNN, Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, a déclaré que certains des systèmes allemands étaient réellement obsolètes. Elle a ajouté que Berlin n'avait pas encore transféré à Kiev de missiles Taurus, car il était nécessaire de s'assurer auparavant que les armes sont bien opérationnelles. Pour rappel, l'armée ukrainienne a retourné en Allemagne 10 chars Léopard en mauvais état selon le magazine allemand Der Spiegel. Selon le média, ces engins nécessitaient d'importantes réparations après avoir été usés à l'entraînement suivi par les soldats ukrainiens. De plus, l'Allemagne n'est pas le seul pays avec lequel des problèmes ont été détectés sur le matériel expédié à l'Ukraine. La chaîne de télévision danoise TV2 a relayé récemment une note du ministre de la Défense du Danemark, Troels Lund Poulsen. Sur les 20 blindés Léopard livrés par Copenhague, 12 étaient défectueux. Sylvain Ité a quitté le Niger. L'ambassadeur français s'est dirigé vers le Tchad, pays voisin selon des informations livrées par les militaires au pouvoir au Niger, relayées par Al Arabiya. Il est ensuite attendu à Paris. Son départ vient clore un bras de fer diplomatique entre la France et le Niger. Pour rappel, suite à la prise du pouvoir par des militaires au Niger le 26 juillet dernier, le ton est monté entre Paris et Niamey. Paris a refusé de reconnaître les nouvelles autorités. Le 25 août dernier, les militaires avaient ordonné l'expulsion du diplomate sous un délai de 48 heures, en réponse aux agissements de la France contraires aux intérêts du Niger. La France avait refusé d'exécuter cette décision, considérant que l'agrément de l'ambassadeur émanait des autorités nigériennes issues de l'ex-président déchu Mohamed Bazoum. Retranché sur le territoire de l'ambassade et réduit à se nourrir de rations militaires selon les médias français, M. Ité a finalement été rappelé par Emmanuel Macron. Deux pays africains affronteront prochainement l'équipe nationale russe de football. Le Cameroun rencontrera la Russie le 12 octobre prochain à Moscou. Quatre jours plus tard, ce sera le Kenya qui affrontera la Sbornaïa en Turquie. Samuel Eto'o, la légende du football camerounais et actuel président de la FECAFOOT, la Fédération de football camerounais, fera le déplacement en Russie pour l'occasion. Un pays qu'il connaît bien pour avoir porté les couleurs du club russe de l'Anji Makhachkala pendant 2 ans. L'autre rencontre entre la Russie et le Kenya se déroulera le 16 octobre en Turquie. Toutefois, le lieu précis où se déroulera le match n'est pas encore connu et des discussions sont actuellement en cours. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM depuis Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La Tunisie n'a pas claqué la porte au FMI. Nabil Amar, le ministre des Affaires étrangères tunisien, a rappelé depuis Moscou, où il effectuait une visite officielle, que son pays n'a jamais cessé ses contacts avec l'institution. Pour rappel, en juin dernier, le président tunisien Kais Saied avait qualifié les conditions d'octroi d'un prêt du FMI à la Tunisie d'inacceptables et que celles-ci risquaient de nuire à la paix civile dans le pays. Le président tunisien avait ajouté que répondre aux exigences de la banque conduirait à un appauvrissement accru de la population. Cette prise de position avait laissé penser que Tunis tournait le dos à ses partenaires occidentaux au profit de partenaires plus à l'est. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, le ministre des Affaires étrangères tunisien a clarifié la position de son pays tout en précisant les lignes rouges à ne pas franchir. Écoutons tout de suite le ministre.
Sputnik Afrique, Julia Saint-Germain, j'ai une question pour Monsieur le ministre Nabil Amar. Vous visitez Moscou dans le contexte du rejet par le président tunisien des conditions du Fonds monétaire international et du rejet de toute pression extérieure. Donc tout d'abord, qu'attendez-vous de cette visite à Moscou et avez-vous acquis la conviction de vous réorienter vers l'Est et d'établir des partenariats d'intérêt égaux et fondés sur le respect mutuel? Merci.
Vous savez, la Tunisie, ça n'est pas dans sa tradition de rejeter un partenaire pour un autre. Nous avons les canaux ouverts de discussion et de partenariat et de coopération avec tous nos partenaires. Nous n'avons jamais dit que nous avons coupé les ponts avec le FMI. Nous discutons avec le FMI, mais en lui disant, voilà nos contraintes et voilà nos conditions, et cela doit être clair. La stabilité du pays, la protection des couches sociales les plus défavorisées, la sécurité sont ce sont les lignes rouges à l'intérieur desquelles nous sommes tout à fait prêts à discuter. Surtout que ce n'est une insulte à personne, c'est simplement de dire que nous sommes prêts à envisager toutes les solutions. Nous faisons les réformes qu'il faut, mais il ne nous faut pas mettre en péril la sécurité du pays, sa stabilité, en appliquant des recettes dont on a très bien vu que dans d'autres pays et à d'autres époques ont donné des résultats absolument catastrophique. Le FMI doit être au service des pays et non l'inverse.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre en réglant leur poste de radio sur le 99.5 FM. Un hashtag sur les réseaux sociaux fait le buzz au Maroc. Intitulé « Imposer un visa à la France », il fait suite à l'expulsion par les autorités marocaines de deux journalistes français du royaume chérifien. Ces derniers avaient couvert le récent séisme qui a frappé le Maroc de manière tendancieuse. Rabat expliquait que ces deux journalistes sont entrés sur le territoire marocain en tant que touristes. Ils n'ont pas demandé d'accréditation et n'ont pas déclaré qu'ils travaillaient en tant que tels. Ces événements surviennent dans un contexte de regain de tension entre la France et le Maroc. Rabat a refusé la main tendue de Paris, qui lui avait proposé son aide suite au séisme, pour privilégier le soutien des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Malgré le refus essuyé par la France, Emmanuel Macron a pris la parole pour s'adresser au peuple marocain afin de réitérer son soutien. Toutefois, cette intervention a fortement déplu aux Marocains, certains la considérant comme une ingérence flagrante et inappropriée. Et c'est dans ce contexte que la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc a pris la décision de ne plus communiquer en langue française. Pour rappel, les citoyens français sont actuellement dispensés de visa pour entrer sur le territoire marocain. Ce n'est pas le cas des Marocains qui, eux, doivent obtenir un visa pour pouvoir entrer dans l'Hexagone. Et son obtention est loin d'être une affaire facile. Au micro de Sputnik Afrique, Abdelhak Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales, a analysé l'idée de l'introduction d'un régime de visa pour les Français au Maroc.
Sur les réseaux sociaux des utilisateurs marocains, on a constaté un hashtag qui revient très souvent pour la mise en place de visas pour les citoyens français au Maroc. Et selon vous, quelles sont les raisons de cette tendance ?
Bah écoutez, je pense, je comprends le sentiment d'une partie de la population marocaine qui peut justement demander que l'on impose un visa aux ressortissants français, aux touristes français, aux visiteurs français qui veulent se rendre au Maroc, suite à ce qui se passe et à ce qui s'est surtout passé après le terrible séisme qui a frappé la région de Marrakech et d'El Haouz, et avec cet acharnement des médias français contre le Maroc, avec ce message inapproprié filmé par le président de la République française Emmanuel Macron qui s'est permis de s'adresser aux Marocains comme dans un irrespect total de leur douleur, du deuil que vivaient et vivent toujours tous les Marocains. Et ce sont des choses, c'est un cumul de choses qui fait que depuis des années, surtout avec l'avènement du macronisme et de l'ère Emmanuel Macron, qui a l'escalade dans les rapports conflictuels avec le Maroc a fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable ras-le-bol au niveau des populations marocaines. Et on comprend parfaitement cette volonté de vouloir imposer aussi aux Français un visa. Parce que sommes-nous face à plusieurs catégories humaines ? Il y a des gens qui peuvent entrer chez nous facilement et nous, on ne peut pas aller chez eux. Cette histoire-là vient aussi suite au refus d'obtention de visa par la France, qui a refusé plus de 80% des demandes de visa des Marocains ces dernières années. Il se trouve que les Marocains ont dépensé plus de 10 millions de dollars en dossiers et en frais de dossiers pour déposer leur visa. Non seulement ils reçoivent en réponse une fin de non-recevoir, mais ils doivent payer pour le refus. Je pense que toutes ces choses-là, l'acharnement des médias français, la maladresse du gouvernement français, l'irrespect marqué et assumé par le président Macron, plus toutes ces restrictions sur les visas qui ont, il faut le dire, privé des étudiants de faire leurs études, privé des hommes d'affaires de conclure leurs affaires avec la France, privé des familles de se réunir, privé des gens d'aller voir leurs familles malades ou même en cas de décès, ce sont des choses qui ne sont pas du tout acceptables pour le Maroc et pour les Marocains. Et on comprend le sentiment des Marocains de dire aujourd'hui, mais si les Français nous imposent un visa et en plus ils nous le refusent, ben à nous aussi de leur imposer un visa. Et c'est tout. Et nous aussi, on filtre et on voit qu'ils rentrent chez nous et qu'ils n'entrent pas chez nous. C'est un sentiment de fierté, et c'est un sentiment de fierté marocain et d'orgueil qui est justifié. Justifié parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques et beaucoup d'accusations et beaucoup de coucous, si j'ose dire. Les Marocains aujourd'hui disent niet, stop, voilà, basta, on passe à autre chose.
On a l'activiste marocain Simo Ben qui a déclaré dans un message vidéo que, je cite, son pays pouvait se passer des touristes français car, selon lui, le Maroc attire des visiteurs venus de différents continents. Et quelle est la situation du tourisme au Maroc aujourd'hui ? Est-ce que Rabat peut-elle se passer vraiment des touristes français ?
Ben, écoutez, la situation du tourisme au Maroc est florissante. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de touristes arriver au Maroc. Le nombre augmente. L'objectif de dépasser les 10 millions de visiteurs, de touristes par an a été largement dépassé. Il y a des villes touristiques marocaines qui affichent complet toute l'année, notamment Marrakech, Agadir, et Dakhla, Tanger, Fès, Casablanca, Rabat, et puis d'autres villes, hein, le sud du Maroc, le Sahara marocain, des régions montagneuses, les régions de l'Atlas, pour différents types, différentes niches touristiques. Le tourisme marocain se porte très bien, les chiffres sont là pour l'attester, là il y a absolument aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut pas non plus dire que on se passe des touristes français. Il faut nuancer. Les Marocains ne doivent pas avoir un problème avec l'idée. Les Français, les Marocains, ils sont touchés, blessés par le comportement du gouvernement français et par le comportement de certains médias français qui les insultent. Ils estiment qu'ils sont injuriés, insultés par ces deux parties. Maintenant, les touristes français sont les bienvenus au Maroc. C'est leur pays. Il y a des Français qui vivent au Maroc en bonne entente avec les Marocains depuis de longues années. Il y a des expatriés français qui travaillent au Maroc et qui jouissent d'une vie et d'une qualité de vie exceptionnelle à leurs yeux. J'ai moi-même et tous mes amis, tout mon entourage, nous avons des amis français qui vivent avec nous et qui sont nos amis très très proches. Il y a des liens de famille, il y a des liens d'amitié, il y a des liens de respect et d'estime. Non, aller jusqu'à dire qu'on peut se passer des touristes français, non, maintenant économiquement, oui, mais humainement, non. Je pense qu'on devrait garder de bons rapports et on dit au contraire, welcome, bienvenue à tous les touristes français ou d'ailleurs, et qui peuvent venir au Maroc parce que c'est un pays qui les attire, parce que c'est un pays où ils se sentent bien, parce que c'est un pays stable, un pays sécure. Et voilà, non, il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes jusqu'à dire non, on n'a aucun problème, je n'ai aucun problème, et je pense que les Marocains qui réfléchissent n'ont aucun problème avec les citoyens français. Pas du tout, ils sont et je le répète, ils ont été blessés profondément par le comportement du président de la République française et par certains médias français.
Alors, c'est pas la première fois que l'on rapporte des appels à introduire un régime de visa pour les Français au Maroc. En 2022, déjà, et c'était sur fond de réduction d'octroi des visas français aux ressortissants du royaume chérifien, vous en avez parlé tout à l'heure, on avait des appels similaires qui avaient été relayés sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ces appels, à l'époque, n'ont-ils pas été entendus par les autorités marocaines ?
Je pense, vous avez raison de souligner cela, moi je pense que le Maroc est toujours, je pense que l'attitude du gouvernement marocain est une attitude de main tendue, est une attitude de conciliation, est une attitude de respect et d'estime mutuelle. Je ne pense pas du tout, en tant que journaliste et en tant que citoyen marocain, je suis loin de penser que le gouvernement marocain veuille vraiment en arriver là avec les Français. C'est l'attitude des Français qui a fait que la goutte a débordé et que, à la limite, nous sommes à une situation de non-retour, à moins que les mentalités françaises changent, à moins que les attitudes du gouvernement français changent. Ce dont je doute profondément, parce que l'acharnement va crescendo, et je pense que le Maroc a raison aussi de dire non, stop, et que voilà, s'il y a possibilité de laisser au gouvernement marocain de décider, si le gouvernement marocain décide d'imposer un visa aux Français, ben il le fera, et il jugera selon les intérêts du gouvernement marocain et du pays pour imposer un visa aux Français. Mais je pense que, encore une fois, ces appels émanent de plusieurs points, mais surtout le fait que les Français humilient les Marocains, les font attendre pendant des mois pour prendre un rendez-vous, ils les font payer, ils rejettent leur dossier. Même, je peux vous donner l'exemple d'un grand homme d'affaires marocain dont le compte en banque a affiché pas moins de 37 millions de dirhams. Et on lui a dit, vous ne pouvez pas entrer en France, alors qu'il est parti en France au moins 100 fois dans sa vie. Et il avait des affaires avec des Français et ça a capoté pour ce monsieur. Je veux dire, il y a des choses aberrantes, il y a des choses absurdes qui se passent à ce niveau-là. Et je pense que ce quota d'imposer une restriction de 70-80%, il n'y a pas que le Maroc, l'Algérie aussi, la Tunisie, le Liban, certains pays africains, même le Qatar. Vous voyez, je pense que la France suit une politique qui est clairement anti-arabe, anti-musulman, anti-pays africain. Et cet aveuglement-là n'est pas bon pour la France, parce qu'elle est en perte de vitesse dans tous les domaines. La France a perdu le Maroc, la France n'a pas pu récupérer l'Algérie, la France n'a pas pu récupérer la Tunisie, la France s'est fait huer et éjecter de toute l'Afrique de l'Ouest, ses anciennes colonies, son précaré français, ce qu'on appelait avant la France-Afrique, avec le Niger, et avec les menaces que le gouvernement français a prononcées à l'égard des populations nigériennes. Et tout ça, non pas pour la liberté et la démocratie qu'ils veulent imposer à ces gens, mais surtout pour l'uranium. On connaît les intérêts économiques de la France en Afrique. Et bien cette politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui a achevé de tuer, de rompre les derniers liens véritablement minces qui liait encore la France au Maghreb et à l'Afrique. Et je comprends que les populations s'insurgent, refusent et signifient leur volonté aussi de répondre aux agressions françaises, de répondre à cette espèce de non-respect des Français à l'égard des Marocains ou des Maghrébins ou des Africains, surtout dans cette histoire de visa, de leur dire aussi, ben nous aussi, on peut vous imposer un visa et on peut faire la sélection comme on veut. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. La Turquie a imposé un visa aux États-Unis, pourtant c'est son allié, ils sont tous les deux dans l'OTAN, il y a des rapports cordiaux entre les deux pays, mais comme les Turcs ne peuvent pas entrer aux États-Unis sans visa, ben les Turcs, ils ont imposé un visa aux Américains. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de montrer à l'autre que nous aussi on peut le faire et qu'il faut que ça soit des deux côtés. Voilà, soit on a le visa des deux côtés, soit il n'y a pas de visa. Parce que pourquoi la France est meilleure que le Maroc, la terre française est meilleure que la terre marocaine? Je ne comprends pas cette histoire-là. Oui, il y a les problèmes à l'immigration, il y a l'immigration clandestine, il y a tout ce barricadement qui est en train de se vivre et de se faire aujourd'hui en Europe, qui est en train de se barricader, de se fermer avec des frontières solides, avec tout ce refus des immigrés. Moi, je comprends tous ces problèmes-là qui ont des ramifications beaucoup plus complexes et dont on pourra parler un autre jour dans une émission autre liée justement à l'immigration. Par contre, cette histoire de visa, je crois que la France a fait un pas de trop et qu'il a fait une erreur de trop. Et aujourd'hui, les Marocains manifestent leur refus et surtout leur désir aussi de répondre aux Français. De la même manière, c'est-à-dire si on doit chercher un visa pour aller en France, les Français aussi doivent avoir un visa pour revenir en Maroc, ou juste rentrer chez eux.
On est maintenant en 2023, donc j'ai évoqué avec vous la situation en 2022. Qu'est-ce qui a changé depuis et est-ce que l'introduction d'un régime de visa pour les Français au Maroc est-il envisageable maintenant?
Écoutez, je ne suis pas dans le secret des discussions, des réflexions sur cette question au niveau des composantes, des différents départements composant le gouvernement marocain. Mais ce que cela changera, c'est que c'est une réponse claire à l'égard de la France, à l'égard du régime, du gouvernement français, de lui signifier que le Maroc ne veut plus de cette dynamique de rapport basé sur l'acharnement, basé sur les agressions à répétition, basé sur des attaques injustifiées, toute cette animosité, toute cette haine larvée que nourrissent certains départements du gouvernement français et certains médias français. Je crois que le Maroc peut utiliser cette carte comme une manière tout à fait légitime, hein. C'est un État souverain qui peut le faire si il pense à cette réaction. Et ça, ce que ça pourrait changer, c'est que ça pourrait aussi signifier pour les Marocains dont les voix se sont élevées, que leur pays les entend et que cette humiliation qu'ils ont subie à répétition pendant des années, ben voilà, il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, ben c'est aux Français aussi de goûter aux affres d'aller déposer un dossier pour obtenir un visa et de se voir refuser un dossier après avoir payé comme les Marocains l'ont fait. Je ne voudrais pas pour les Français, loin de là, encore une fois je le précise, loin de là, je ne voudrais pas que les Français vivent la même situation. Par contre, vu ce qui se passe au niveau de leur gouvernement, ben voilà, il y a certaines personnes, si cette histoire de visa devait aboutir et devenir une réalité, ben il y a beaucoup de Français qui vont en pâtir aussi et ils vont sentir ce que d'autres Marocains, Maghrébins, Africains, Arabes, ont senti vis-à-vis de cette question-là. C'est comme s'il s'agissait d'un sésame pour entrer en Europe. Alors que, si vous voulez mon avis, j'arrête pas de le dire et de l'écrire, il n'y a plus rien à faire en Europe. L'Europe, c'est véritablement un vieux continent sénile où ça va très mal, où la crise économique frappe de plein fouet, où il n'y a plus, strictement plus rien à faire. Mais les gens n'ont pas encore compris qu'il vaut mieux rester chez soi, travailler chez soi, essayer de se construire, même se débrouiller chez soi. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire en Espagne, en France, en Allemagne aujourd'hui? Il n'y a plus strictement rien à faire. L'économie, la crise financière frappe de plein fouet, la crise énergétique, le retour de la guerre en Europe, la crise multidimensionnelle que traversent certains pays, notamment la France. Eh ben non, je pense que les Marocains, ils ont intérêt à rester chez eux. C'est plutôt la France qui a besoin du Maroc et pas le Maroc qui a besoin de la France.
Je vais terminer sur une dernière question. Je vais revenir sur les événements qui ont touché récemment le Maroc. Pourquoi le royaume chérifien a-t-il refusé l'aide de la France après le séisme? Pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs qui nous écoutent?
Absolument, absolument. J'ai fait des conférences dans ce sens-là et des interviews. Je l'ai expliqué, je l'ai écrit sur plusieurs colonnes de journaux et de magazines marocains. Mon point de vue a été clair, il n'a pas dévié d'un iota. Le Maroc est un pays souverain. Sa Majesté le Roi a décidé de ne pas accepter la proposition d'aide française pour les raisons que l'on connaît. La France n'est ni un pays ami et les relations entre le Maroc et la France ne sont pas cordiales du tout. Donc, un, je n'accepte pas. Deux, le Maroc n'a pas besoin de l'aide française. Par contre, le Maroc a accepté l'aide de pays amis, amis qui sont véritablement des pays amis, qui ont des liens solides avec le Maroc et dont les relations sont véritablement amicales et cordiales. Je pense au Qatar, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Espagne, je pense à d'autres pays. Le Maroc a accepté ce qu'il voulait accepter, mais le Maroc aussi peut dire non parce qu'il a les moyens de gérer cette catastrophe. Et il l'a démontré aux premières heures après le séisme, les forces de l'armée marocaine sous les directives de Sa Majesté le Roi ont été sur place. Les équipes de secours, les pompiers, les forces auxiliaires, la police nationale, la gendarmerie nationale, tous les départements ont été mobilisés dans les premières heures sur place pour venir en aide, pour sauver ceux qui pouvaient encore être sauvés, pour aider les rescapés. Les hôpitaux ont été mobilisés, des hôpitaux de campagne ont été édifiés, les secours s'acheminaient, puis il y a eu cet élan magnifique de solidarité avec cette belle leçon des Marocains donnée au monde entier, c'est que ce sont des convois de camions, de camionnettes, de voitures, des milliers de convois qui partaient avec des provisions de tout le Maroc, de tout le territoire marocain, du Sahara jusqu'au Détroit, de l'Oriental jusqu'à l'Atlantique, avec des aides, avec des vivres, avec des médicaments, avec des provisions, avec des matelas, avec des couvertures. Et le Maroc se suffisait à lui-même. Le Maroc savait gérer, a un programme pour gérer les catastrophes. Il l'a montré, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, plus de deux semaines après le séisme, les routes sont en train d'être finalisées, l'opération de relogement des sinistrés est en train de se faire, l'argent qui a été offert, donné pour aider les personnes sinistrées est en train de sortir donc des caisses et d'ici la fin du mois, tout le monde recevra son argent et l'aide qui a été émise par le gouvernement marocain sous les directives et les hautes instructions de Sa Majesté. Le Maroc a montré qu'il pouvait gérer, il l'a bien géré, il a géré de manière exemplaire, voilà, avec son expertise, avec son expérience, avec son savoir-faire, avec ses moyens techniques, logistiques et humains. Maintenant, il a le droit, en tant que pays souverain, de dire non, je ne veux pas de l'aide de tel ou de tel, surtout pas d'un pays comme la France qui attaque le Maroc, qui insulte le Maroc, dont le président français attaque le Maroc, insulte les Marocains. Non, et dont les médias se sont acharnés sur le Maroc, et nous avons vu cette indigne campagne d'acharnement, de dénigrement, d'insultes de la part de certains journaux, alors que les Marocains étaient en train d'enterrer leurs morts. C'est inhumain, c'est indigne, c'est abject. Voilà, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot abject. On ne peut pas faire ça. C'est comme si les Français s'étaient saisis de cette catastrophe naturelle qui était de leur coup, pour dire « Tiens, voici, nous avons une occasion pour enfoncer le clou et attaquer davantage le Maroc. » Je trouve ça d'une monstruosité sans nom, inqualifiable, vraiment inqualifiable.
C'était Abdelhak Najib, écrivain marocain, politologue, essayiste et conférencier, spécialiste de l'Afrique et des relations internationales pour Spoutnik Afrique. Il a analysé l'idée de l'introduction d'un régime de visa pour les Français au Maroc, voulu par des internautes marocains. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le Canada est dans la tourmente. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été invité au Parlement canadien durant sa visite dans le pays. Et c'est lors de cette venue du président ukrainien qu'un scandale a éclaté. Yaroslav Unka, un ancien combattant nazi ukrainien de 98 ans, a été reçu avec les honneurs et applaudi par toutes les personnes présentes, y compris Volodymyr Zelensky et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Des organisations juives ont vivement critiqué la venue de ce vétéran SS. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a réagi en déclarant que la situation était extrêmement bouleversante et profondément embarrassante pour le Canada. La responsabilité a été mise sur le dos du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui a fini par présenter sa démission face au scandale. Pour revenir sur ce scandale qui secoue le Canada, je vous présente Bruno Drzewski, professeur de relations internationales et de civilisation de l'Europe médiane à l'Institut national des langues et des civilisations orientales. Écoutons-le tout de suite. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu'il était profondément embarrassant que des membres de son parlement aient ovationné un homme qui a combattu pour les nazis. Et pourtant, sur les images, et c'est quelque chose qui est quand même assez évocateur, lui aussi, il a applaudi le vétéran nazi aux côtés de Zelensky. Pourquoi Trudeau refuse d'admettre son erreur ?
Ben, tout simplement parce que le règlement du Parlement du Canada montre bien que le président du Parlement ne peut pas inviter quelqu'un sans l'accord du Premier ministre. C'est la différence avec beaucoup de parlements dans le monde. Donc Trudeau était d'accord avec cette invitation. Alors, l'a-t-il accepté par ignorance, mais alors ce serait une ignorance crasse, ou par volonté de manipulation, ça on peut poser la question. Mais moi, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit du deuxième réponse, dans la mesure où, depuis un an et demi, nous assistons quand même à énormément d'éléments de fascisation, de néo-fascisation en Europe occidentale. Ce n'est que, le dernier épisode est le plus marquant de ce processus. Moi, je pense que le système est en crise et que, comme dans les années 20 et 30, les bons libéraux peuvent se servir des fascistes. D'ailleurs, ils l'ont fait au Moyen-Orient avec ce qu'on appelle les islamistes. Et je pense que c'est ça la véritable raison. Il faut habituer petit à petit l'opinion publique que l'extrême droite néo-nazie n'est pas un ennemi.
Au Canada, on a Pierre Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur d'opposition, qui a reproché à Monsieur Trudeau et au gouvernement canadien d'avoir créé une situation embarrassante et, je cite, une honte diplomatique. La Pologne, par l'intermédiaire de son ambassadeur en poste dans ce pays, a exigé des excuses. Et hier soir, on a le président du Parlement, Anthony Rota, qui a finalement présenté sa démission. Et je voudrais vous poser cette question. Selon vous, quelles seront les conséquences de ces événements au Canada ?
Écoutez, je pense que la réponse du président du Parti conservateur est quand même étonnante dans la mesure où les députés conservateurs se sont levés comme tous les autres et que, à moins d'être complètement inculte, ce qui serait déjà une cause de démission, il devrait quand même savoir aux côtés de qui formellement, tout au moins le Canada était en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, et avec qui il était allié, puisqu'il était quand même allié avec l'Union soviétique. Donc tout cela est inacceptable, et c'est, je dirais, l'ensemble de la classe politique canadienne, mais j'irais plus largement, je dirais l'ensemble de la classe politique occidentale pour la plupart des pays, qui est co-responsable de cette évolution qui mêle l'ignorance chez certains, ce qui est inacceptable pour des hommes politiques, au cynisme, voire à l'exploitation du nazisme pour d'autres. Alors évidemment, sans doute que le hasard, c'était imprévu sans doute pour les auteurs de cette manipulation, parce que la réaction du centre Wiesenthal, parce que c'est quand même de là que ça vient, était sans doute imprévu dans la mesure où beaucoup d'organisations soi-disant de lutte contre l'antisémitisme depuis un an et demi dans les pays occidentaux sont très muettes sur l'évolution fascisante de l'Ukraine, hein, pour des raisons sans doute de politique, de conjoncture, etc. Et je pense que le centre Wiesenthal a eu le courage de lever le lièvre et donc le scandale est apparu. Mais on avait eu des cas moins scandaleux, mais néanmoins tout à fait révélateur précédemment dans différents pays occidentaux, et ça n'avait pas posé de problème.
Ce qui est assez paradoxal avec cette situation, c'est que la lutte contre le nazisme est un thème qui est vraiment sanctuarisé en Occident. On ne plaisante pas avec ça. Et dans ce contexte de conflit en Ukraine, le caractère néo-nazi de certains groupes militaires ukrainiens est passé sous silence, et justement vous venez de l'évoquer à l'instant, et il faut quand même pourtant se rappeler quand même, et aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, 27 millions de soviétiques, un peu plus de 27 millions de soviétiques sont morts. ont sacrifié leur vie pour la victoire finale sur le nazisme, quand même. Et pourquoi le néonazisme, quand il est orienté contre les Russes, parce que on a clairement cette impression aujourd'hui, pourquoi quand il est orienté contre les Russes, ça ne choque personne en Occident ? Est-ce qu'il faut voir par là une sorte de manque de respect à l'encontre des Russes ?
Je pense que dans certains milieux en Occident, depuis fort longtemps, il y a, je dirais, un double racisme, un racisme antisémite et un racisme anti-slave. L'apothéose de cela a été évidemment la Seconde Guerre mondiale avec l'hitlérisme. On se rappelle du discours et des comportements des nazis en Europe occidentale, en Europe pardon orientale, en URSS en particulier, mais enfin plus largement dans les pays slaves ou dans les pays considérés comme barbares par les nazis. Donc je pense à la Pologne, à la Yougoslavie, à la Grèce, ou par exemple à la répression, entre autres par la division SS ukrainienne de l'insurrection nationale slovaque, dans laquelle on a massacré pas seulement des insurgés, ce qui aurait déjà été scandaleux, mais on a massacré des civils. Et donc, les Slaves, aux yeux des nazis, n'avaient pas grande valeur. Et il suffit de se rappeler que même si l'occupation nazie en Europe occidentale était loin d'être une occupation douce, elle était incomparablement plus douce que l'occupation nazie à l'est de l'Allemagne. Et je dirais, ça n'est pas spécifique à l'Allemagne. Il y a dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays appelés coloniaux ou post-coloniaux, ce sentiment de supériorité raciale qui se manifestait dans les colonies, mais qui se manifestait aussi à l'égard de l'Europe de l'Est plus largement, qui a toujours été, je dirais, sous-cutané dans un certain nombre de milieux plus ou moins d'extrême droite, mais pouvant aussi être libéraux à l'occasion, parce qu'il faut quand même se rappeler que beaucoup de libéraux sont devenus nazis dans les années 30, mais ils avaient été libéraux auparavant. Il y a une complicité entre libéraux et nazis qu'il faut avoir en tête et qui découle de ce racisme.
Je vais terminer avec une dernière question. On a un fait qui est curieux, c'est que le grand-père de Volodymyr Zelensky, Semyon, a combattu le nazisme aux côtés de l'armée rouge. Et trois frères de Semyon Zelensky, ainsi que son père, donc si on résume, l'arrière-grand-père de Volodymyr Zelensky, pour suivre un peu cette généalogie pour nos auditeurs qui nous écoutent, ont été tués pendant l'Holocauste. Et comment pouvez-vous expliquer que Volodymyr Zelensky ait applaudi dans le Parlement canadien un ancien SS qui aurait pu potentiellement affronter et tuer son grand-père sur le front?
Mais écoute, sur le front ou à l'arrière, hein, puisqu'il se... Non, je pense que, effectivement, c'est une énigme de l'actuel régime ukrainien que de voir... Parce que Zelensky ne pouvait pas ignorer, lui ne peut pas ignorer qui était ce, entre guillemets, Canadien mis de l'avant par le président du Parlement. Il savait très bien qu'il avait combattu les Russes, comme il a dit, avant 1945. Donc l'hypothèse de l'ignorance est totalement exclue dans le cas de Zelensky. Il sait très bien à qui il a affaire, mais je pense qu'il y a des considérations de politique qui nous échappent, mais qui échappent aussi à l'État d'Israël, par exemple, qui accepte de soutenir l'Ukraine dans sa guerre et de fermer les yeux sur la renaissance du nazisme en Ukraine. Donc là, on a, je dirais, si je peux dire, entre guillemets, une alliance objective pour des raisons conjoncturelles, politiques, sociales, économiques, que sais-je. Il faudrait creuser, évidemment, cette question. Mais on a un cynisme très clair qui explique beaucoup de choses et dont Zelensky n'est qu'un des éléments, parce que quand même, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la réaction du centre Wiesenthal est très louable, parce que si on compare avec, par exemple, l'attitude de l'Anti-Defamation League aux États-Unis, juste de l'autre côté de la frontière depuis un an et demi sur le conflit ukrainien et la nazification de l'Ukraine, c'est absolument scandaleux de voir l'absence de réaction de ceux qui sont censés être à l'avant-poste de la lutte contre l'antisémitisme et pour la mémoire de l'Holocauste, etc. Donc là, il y a une manipulation que je qualifie de sordide, d'éléments qui, pour des raisons conjoncturelles, j'ai envie de dire, passent par-dessus le cadavre de leurs ancêtres.
Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était Bruno Drewiecki, professeur de relations internationales et de civilisation de l'Europe médiane à l'Institut des langues et des civilisations orientales pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur le scandale qui secoue le Canada, qui a honoré au Parlement canadien un vétéran nazi ukrainien à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky.
Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez depuis Bamako Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM. Un récent rapport de la Standard Bank a révélé que plus de la moitié des entreprises sondées n'ont pas encore entendu parler de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Créé en 2018, ce projet en cours de création compte déjà 54 États signataires. Selon un récent rapport du Fonds monétaire international, une hausse de plus de 50% des échanges commerciaux entre les pays africains est attendue avec sa mise en place. Au micro de Spoutnik Afrique, le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et Georges Seboulela, fondateur du South African United Business Council, ont présenté les avantages de la future ZLECAF et des solutions pour faire connaître cette future zone de libre-échange à davantage d'entrepreneurs. Écoutons-les. Monsieur Sawadogo, comment la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, contribuera-t-elle au développement économique de l'Afrique?
Moi, je pense que la zone de libre-échange, ZLECAF, là, va contribuer à renforcer essentiellement les échanges inter-africains entre États appartenant à la même zone, partageant les mêmes réalités. Et donc, par conséquent, une zone de libre-échange, par définition, fait tomber les barrières. Non seulement les barrières tarifaires, mais les barrières aussi non tarifaires, de sorte à ce qu'il y ait plus de trafic à l'intérieur de ces économies. Il y ait plus d'échanges de biens et de services, il y ait plus essentiellement d'échanges même aussi sur les questions financières. Là. Une zone de libre-échange permet de fortifier, de consolider essentiellement les échanges à l'intérieur de ces deux pays. Et comme on sait que le commerce est mutuellement avantagé, alors chaque pays pourrait essentiellement plus exporter et faire en sorte d'augmenter sa valeur ajoutée, la création de richesses dans ces pays.
Et vous, Monsieur Seboulela, qu'est-ce que vous en pensez?
Tout d'abord, près de 54 pays, les États de l'Union africaine, se sont engagés et ont signé ce programme ou cet accord. Il s'agit évidemment de faire de l'Afrique la plus grande économie des marchés émergents, ce qui est une phase très importante. Les opportunités sont donc très importantes pour le marché africain, pour les entreprises africaines qui veulent commercer entre elles. Et il y a aussi une plus grande opportunité pour le marché international de commencer à se diversifier en explorant les opportunités qui existent en Afrique. Prenons un exemple typique. Aujourd'hui, la population combinée des États membres de l'Union africaine s'élève à 1,2 milliard d'habitants, pour un PIB de plus de 3,4 milliards de milliards de dollars. Cela vous donne une idée de l'ampleur des opportunités qui existent sur le continent africain. Et il est évident que ce PIB représente déjà environ 3% du commerce mondial, ce qui est vraiment énorme. Mais n'oubliez pas qu'un agenda 2063 est en cours d'élaboration. En fait, il y a d'abord 2030 et ensuite 2063. Vous pouvez donc imaginer que le projet réunit le groupe des pays d'Afrique, les individus et les économies sous un très grand marché unique, avec la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Il s'est présenté comme l'une des plus grandes opportunités qui existent dans ce cas particulier.
Monsieur Seboulela, quel rôle les monnaies nationales joueront-elles dans les échanges entre ses membres? Et peut-on s'attendre à ce que le développement de la ZLECAF contribue à réduire la dépendance à l'égard du dollar?
Mon point de vue est très simple. Je pense que le dilemme est que le dollar est une monnaie très dominante. Cela ne fait aucun doute. Et la difficulté est que vous n'aurez pas votre propre souveraineté dans vos pays et ne serez pas traité comme tel si vous subissez la pression d'un pays qui est supérieur aux autres pays. Personne ne veut se retrouver à la merci d'une autre personne. Et le dollar est malheureusement devenu tellement dominant qu'il crée des problèmes dans les échanges de pays comme l'Afrique du Sud avec la Russie, par exemple. Aujourd'hui, cela devient difficile. En tant que pays, nous avons besoin de ressources pétrolières et gazières. Nous pouvons obtenir de bonnes ressources pétrolières et gazières de la Russie étant donné que nous faisons partie des BRICS. Mais comme la Russie fait l'objet de sanctions, nous ne pouvons pas accéder aux produits parce qu'il n'y a pas de devises disponibles. Donc logiquement, si nous devenons un monde multimonnaie et que les consommateurs peuvent choisir la monnaie qu'ils veulent utiliser, cela rend la vie beaucoup plus facile et même la concurrence bien meilleure, plutôt que d'être contraint d'utiliser une certaine monnaie par rapport à d'autres. Nous devons disposer d'une monnaie alternative que les gens peuvent choisir d'utiliser. Il est également possible que les gens veuillent choisir le dollar parce que c'est une monnaie performante. Mais la majorité peut aussi avoir le choix. Vous savez, il y a les Mercedes-Benz et les BMW. Et je peux choisir celle que je veux acheter en fonction de ses avantages. Je ne dis pas qu'il faut empêcher les gens d'acheter des BMW et les laisser utiliser des Mercedes. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Veillons à ce qu'il y ait une concurrence. Mais les gens ne seront pas à la merci de la situation lorsqu'ils sauront que si vous n'utilisez pas cette monnaie, cela signifie que vous ne pouvez pas commercer. C'est ainsi que nous pouvons voir les pays essayer de traiter sur un pied d'égalité, car personne ne supprime l'autre en disant « j'ai ceci et tu n'as pas cela ». Créons un monde où l'euro, le dollar et les autres monnaies pourront se concurrencer sur un pied d'égalité sans être utilisés comme des instruments d'oppression.
Et vous, Monsieur Sawadogo, pensez-vous que la ZLECAF contribuera à réduire la dépendance au dollar et peut-être même au franc CFA?
Je rappelle que le franc CFA, c'est la monnaie commune des pays qui ont été colonisés par la France en Afrique. Je parle de l'espace Yumoa, je parle de la CEMAC et les Comores. Mais cette monnaie est arrivée essentiellement à l'euro. Autrefois, c'était le franc français. Maintenant, c'est arrivé à l'euro. Mais je pense qu'une zone de libre-échange en Afrique peut toujours créer plus de trafic à l'intérieur de nos États. C'est-à-dire plus d'échanges, quelle que soit la monnaie qui existe. Maintenant, si on arrive, les Africains arrivent à créer une monnaie qui est propre à l'Afrique, une monnaie qui est propre à nos zones, créée essentiellement par les Africains, gérée par les Africains, pour la cause africaine, je pense que ça peut encore consolider davantage nos économies. Mais le développement ne se base pas essentiellement sur la monnaie. C'est la force de l'économie qui fait la force de la monnaie. Par contre, c'est une question de souveraineté de la monnaie. Il y a la monnaie, il y a les décisions politiques avec l'exécutif, mais il y a aussi l'armée. Et ce sont ces trois instruments-là, ce sont des instruments essentiellement du souverain et ils doivent être contrôlés par les économies nationales, ils doivent être contrôlés à l'intérieur. Donc, voici globalement ce que je pense sur cette question.
Monsieur Sawadogo, selon un rapport publié par le groupe bancaire sud-africain Standard Bank, seulement 44% des entreprises déclarent avoir pris connaissance de la zone de libre-échange continentale africaine. Quelle en est selon vous la raison et que faut-il faire pour remédier à cette situation?
Le problème africain aussi, c'est les canaux de transmission de l'information qui ne sont pas suffisamment bien développés et tout ça, ça passe aussi par l'investissement. Il faut faire des investissements structurants, comme je l'ai déclaré, permettre l'audiovisuel, permettre essentiellement tout ce qui est communication digitale, de prendre forme en Afrique et de pouvoir propager l'information. Et de renouer quand même confiance entre les entreprises, l'ensemble des acteurs économiques avec leurs dirigeants, parce que les décisions prises au sommet de l'État doivent être appliquées en bas de l'échelle. Donc, il faut veiller à ce que ça soit bien appliqué. Et cela passera aussi par les canaux de communication, les canaux de l'information. Et je pense que l'Afrique y travaille et nous allons y arriver.
Et vous, Monsieur Seboulela, pourquoi, selon vous, plus de la moitié des entreprises du continent ne savent pas ce que c'est que la ZLECAF?
Je suis vraiment très, très choqué par le résultat que vous avez présenté, parce que j'ai toujours pensé que beaucoup de travail avait été fait pour mettre en avant le programme de la ZLECAF, ce qu'elle représente, et un certain nombre d'événements. Je dis simplement que Wamkele Mene, le secrétaire général, a réalisé un travail considérable sur la ZLECAF. Il y a eu un certain nombre d'activités. Je ne remets pas en question la crédibilité de cette enquête, mais partout où nous sommes allés, nous avons vu les activités de la ZLECAF. Oui, il reste encore beaucoup à faire, mais il y a déjà beaucoup de travail qui est en train d'être accompli.
Monsieur Sawadogo, 35% des entreprises interrogées estiment que ces échanges commerciaux intra-régionaux sont assez difficiles. Quels sont pour vous les principaux obstacles pour le développement du commerce interafricain ?
Le plus grand problème du commerce africain, c'est sur les questions de transport. Parce que le transport pour acheminer les produits d'un État à un autre, mais essentiellement, l'Afrique est confrontée à des questions d'emballage, à des questions notamment de logistique. Et ça, ça freine essentiellement le commerce interétatique. Un autre volet aussi, vous avez des barrières à l'intérieur des zones économiques de l'Afrique. Et ça aussi, ça ne facilite pas essentiellement le commerce. Mais tout ce qu'on peut faire pour améliorer ça, déjà une zone de libre-échange va faire baisser l'ensemble de ces barrières. Et ensuite, je pense que la création d'une monnaie africaine gérée par les Africains pour la cause africaine va non seulement redonner confiance aux Africains, leur permettre de gérer leur souveraineté et leur permettre aussi de faire beaucoup plus de transactions. Et actuellement, je pense qu'il y a un des volets aussi qui entrave essentiellement le commerce africain, qui est la question de la digitalisation. Mais il faut des investissements lourds, des investissements structurels, qui vont permettre essentiellement aux économies africaines de reprendre forme et de pouvoir conjuguer avec cette digitalisation et avoir des performances meilleures.
C'était le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki Zerbo et Georges Seboulela, fondateur du South African Business Council pour Sputnik Afrique. Ils ont réagi à un récent rapport d'une banque qui a montré que plus de la moitié des entrepreneurs africains ne connaissaient pas la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Ils ont rappelé les bénéfices de l'instauration de cette zone de libre-échange pour le continent africain et donné des pistes afin que celle-ci soit connue par un plus grand nombre d'entrepreneurs. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Notre émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre, se poursuit. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. La Journée internationale du tourisme, c'est le 27 septembre. Célébrée pour la première fois en 1980, le choix de cette date est symbolique. 10 ans auparavant, les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme avaient été adoptés et marquaient un moment clé dans l'histoire du tourisme. Ensuite, le 27 septembre marque également la fin de la saison haute dans l'hémisphère nord et le début de celle-ci dans l'hémisphère sud. Lors des 70 dernières années, ce secteur économique a fait partie de ceux qui ont connu la plus forte croissance dans le monde. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, entre 1950 et 2015, les arrivées mondiales de touristes sont passées de 25 millions à 1300 millions par an. Durant cette même période, les recettes engendrées par le secteur touristique mondial se sont envolées, passant de 2 milliards de dollars américains à 1260 milliards. Aujourd'hui, son poids économique représente dans certains pays plus de 20% du PIB. Après 3 ans de recul sur fond de pandémie du Covid-19, l'Afrique entend profiter du redémarrage du secteur pour se positionner comme destination de choix. Pour faire le point sur les perspectives de développement du tourisme sur le continent africain, je vous présente Barba Gaoganediwe, responsable du marketing et de la communication à l'autorité touristique de la province de Gauteng en Afrique du Sud. Pourriez-vous décrire la dynamique de l'industrie du tourisme en Afrique du Sud et en Afrique en général au cours des dernières années ?
C'est l'un des secteurs les plus importants car l'Afrique du Sud et l'Afrique en général sont sur une trajectoire de croissance. Ce secteur prend toute sa dimension parce que cette croissance que nous envisageons vient ou est anticipée dans le contexte d'une économie très stagnante, combinée à 3 années de Covid-19 et d'absence de commerce, avec des frontières fermées et une connectivité aérienne entre les pays africains qui n'est pas bonne. Le tourisme est un produit à faible investissement et il a la capacité de relier les nations et les cultures entre elles. Mais aussi, c'est un produit fini. Vous n'avez pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. C'est un secteur agréable où les jeunes, les femmes et les entrepreneurs jouent un rôle de premier plan. Surtout dans un continent jeune comme l'Afrique, où nous pouvons exploiter l'énergie et l'exubérance des millions de jeunes formant la majorité de la population africaine. Le tourisme et l'économie des visiteurs au sens large peuvent soutenir la croissance économique, surtout maintenant alors que nous continuons à lutter contre la dévastation causée par le Covid, le changement climatique et les défis sous-jacents en Afrique que sont le chômage et la pauvreté.
La politique mondiale a connu des changements majeurs et cela influence bien sûr le secteur du tourisme et les préférences personnelles. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'Afrique a à offrir à ceux qui recherchent de nouvelles expériences ?
As the world marks World Tourism Day, Africa is the new frontier.
À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, l'Afrique est la nouvelle frontière. C'est un continent riche en opportunités et en ressources naturelles. C'est sur le continent mer que l'on trouve certains des sites et des expériences les plus époustouflants du patrimoine mondial. C'est aussi l'occasion pour les nations de travailler ensemble et de se rapprocher par le biais de la culture et de l'expérience touristique. Le parc Trans-Kalahari réunit sous un même toit des réserves de chasse au Botswana, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. C'est un exemple classique sur la façon dont nos différents pays sont unis par une offre unique comprenant une faune exceptionnelle. En Afrique du Sud, en 30 ans de démocratie, nous avons classé 10 sites au patrimoine mondial. Nous attendons avec impatience que l'UNESCO déclare 3 autres sites au patrimoine mondial dans le pays. Il s'agit là d'un chemin bien parcouru. La majorité des pays, qui ont entre 50 et 100 ans d'existence, ne comptent même pas 10 sites de qualité inscrits au patrimoine mondial. L'Afrique du Sud est donc fière de faire partie des nombreux sites classés au patrimoine mondial que l'on trouve sur le continent africain. Mais bien que nous célébrons la Journée mondiale du tourisme, nous sommes toujours confrontés à des défis qui sont également et fortement influencés par les configurations géopolitiques. L'augmentation continue des prix du pétrole, les guerres qui se poursuivent font partie de ces défis, car la population est aujourd'hui contrainte de rester à l'intérieur de leurs frontières géographiques, effrayée à l'idée de sortir. Le continent africain offre l'opportunité d'aller au-delà de ses frontières grâce à ses offres cosmopolites à un grand nombre de personnes unies dans leur diversité. Il s'agit là d'une nouvelle frontière qui, à notre avis, sera largement diffusée par l'intermédiaire, par exemple, d'un organisme multilatéral mondial du tourisme tel que l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. Nous avons intégré les investissements verts et les débouchés potentiels dans le secteur du tourisme. Nous attendons donc avec impatience d'avoir une voix africaine forte dans une institution telle que le Conseil mondial du tourisme et la formalisation de notre propre organisme sud-africain du tourisme, l'organisme régional africain du tourisme, afin d'avoir un impact uni et percutant dans notre engagement auprès de l'organisme mondial du tourisme.
Et comment évaluez-vous le potentiel des échanges touristiques entre l'Afrique et la Russie ?
Juste avant le Covid, l'instauration du régime de visa gratuit entre l'Afrique du Sud et la Russie a fait exploser le nombre de visiteurs. Le nombre d'arrivées, même s'il n'atteint pas les milliers que nous souhaitons, représente un gain significatif pour les Sud-Africains, comme par exemple la possibilité de se rendre en Russie en profitant de l'amitié bilatérale et historique traditionnelle qui existe entre les deux pays. Nous avons, par exemple, étudié les possibilités de partenariat avec le musée de l'Ermitage, probablement le plus grand musée du monde en coordination avec notre propre site du patrimoine mondial du berceau de l'humanité et la colline de la Constitution. Autrefois prison de la douleur, c'est aujourd'hui un musée de classe mondiale où les jeunes peuvent exprimer leurs prouesses culturelles et créatives tout en utilisant l'infrastructure ayant servi à l'hébergement de personnalités célèbres comme Nelson Mandela, Mahatma Gandhi et bien d'autres figures emblématiques de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, la préservation de nos sites patrimoniaux et de nos musées, comme cela a été fait du côté russe, est quelque chose que nous attendons avec impatience à mesure que nous formalisons la coopération entre, par exemple, les États membres des BRICS, par l'intermédiaire du Conseil des affaires touristiques des BRICS, qui a été récemment créé. Nous attendons donc les possibilités de tirer parti de l'expertise de plus de 100 ans en matière de préservation de sites historiques et culturels importants, tout en cherchant à exploiter le potentiel d'une future mise en place du transport aérien tant attendu entre l'Afrique du Sud et la Russie, ainsi qu'entre l'Europe de l'Est et l'Afrique, grâce à des liaisons au départ de l'aéroport international
d'Oyer Tambo. En juillet dernier, la Russie a accueilli le deuxième sommet Russie-Afrique. Quelle influence ce forum a-t-il eu sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays dans le secteur du tourisme ?
Il s'agit d'une plateforme dont l'Afrique, dans sa forme unie, qui cherche à construire la marque Afrique, peut tirer parti. Nous avons toujours insisté sur le fait que nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes plus forts si nous sommes unis. Si nous exploitons tout le potentiel des pays membres du continent africain et de nos structures bilatérales et multilatérales formalisées, nous serons en mesure d'exploiter tout le potentiel du tourisme. Comme je l'ai dit, le tourisme est l'un des rares secteurs où les jeunes quelle que soit leur qualification académique, ont une chance. En ouvrant des marchés pour le commerce, l'investissement et le tourisme entre la Russie et l'Afrique, nous donnerons également une chance aux jeunes et nous aiderons à relever les défis omniprésents du chômage sur le continent. Les bateaux de croisière qui accostent ici en Afrique du Sud et qui utilisent notre collaboration avec la Mer Rouge contribueront également à diversifier les offres touristiques pour inclure l'économie océanique, la faune et la flore, ainsi que la collaboration avec un site inscrit au patrimoine mondial. Avec la présence du bureau régional de l'UNESCO, nous étudions les possibilités afin de mieux coordonner et de tirer parti de certaines des opportunités dégagées lors du sommet Russie-Afrique. Le plus grand défi pour nous, en tant que continent africain, est d'exploiter notre offre, de faire de la marque Afrique du Sud et Afrique une priorité dans ce que nous faisons, de concentrer tous nos efforts, toutes nos offres. Je pense que cela nous placera en pole position et nous permettra d'améliorer les échanges commerciaux, les investissements et le tourisme entre l'Afrique et la Russie.
C'était Barba Gaoganediwe, responsable du marketing et de la communication à l'autorité touristique de la province de Gauteng en Afrique du Sud pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de la Journée internationale du tourisme, elle a fait le point sur la situation de l'industrie du tourisme sur le continent africain et évalué le potentiel des échanges touristiques avec la Russie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Zone de Contact. Une émission de Spoutnik Afrique.